Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
C'est le peuple star de l'Antiquité, il nous a dominé, inspiré aussi. Vous allez découvrir la vie quotidienne à Rome, les Romains donc. Bonjour Virginie Giraud.
Bonjour Sidonie.
Quelle joie de vous retrouver dans Minute Papillon. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de la sexualité et des femmes. La Rome antique, on la resitue un peu façon prof d'histoire. C'est quelle période exactement de notre récit national de notre histoire?
Alors Rome, ça commence au 8e siècle avant Jésus-Christ avec une bande de mecs. C'est un boys club au départ, ouais. Rome, avec à leur tête Romulus. Et puis ce petit village va grossir jusqu'à devenir un immense empire territorial à du Portugal à la Syrie et de l'Angleterre à l'Égypte actuelle. Et ça se termine au 5e siècle après Jésus-Christ, lorsqu'on dépose le dernier empereur romain et que les barbares prennent la main sur l'Europe.
Ils sont très puissants, ces Romains. Qu'est-ce qui explique leur puissance et leur domination comme ça?
Ah, je pense que c'est le goût de l'ordre, voyez-vous, Sidonie. Ah oui, les Romains sont
Le rangement ou
de la totale?
De la totale. Vous aimez ranger à tous les niveaux?
À tous les niveaux et surtout l'Empire. Oui, ce sont des gens qui sont passionnés par l'ordre, par la discipline. Et ce qui a fait la grandeur de l'armée romaine, c'est vraiment cette capacité à être discipliné. C'est ce que me disait toujours mon vieux maître Yann Le Boeck. Et c'est comme ça qu'ils ont écrasé toutes les armées autour d'eux pour faire leur conquête, qui étaient des armées beaucoup moins bien organisées, beaucoup moins bien entraînées. Et au final, ça a donné ce gigantesque empire qui, administrativement, a tenu avec des organisations qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, hein, mais ça a quand même tenu 8 siècles.
L'autre star de cette histoire de l'Antiquité, c'est Rome. C'est cette ville incroyable. C'est quoi les dimensions de Rome durant l'Antiquité, dans ce règne des Romains?
Alors Rome s'étend sur 7 collines, donc ça ressemble toujours un peu à la typologie de la Rome d'aujourd'hui, et elle est divisée en 14 arrondissements. Donc c'est une ville qui est extrêmement bien organisée, qui compte près d'1 million d'habitants à son sommet. Donc c'est une ville très cosmopolite aussi. Ouais. Vous pouvez voir des gens qui venaient des 4 coins de l'Empire à l'époque. C'est une ville qui pourrait ressembler un peu à Paris du 19e siècle.
On habitait où, Virginie Giraud, et comment surtout dans cette Rome antique? Il y avait quel type d'habitat? Est-ce qu'il y avait des arrondissements mieux que d'autres?
Eh ben oui, comme à Paris. L'équivalent du 16e, c'est le Palatin, c'est la colline où habitent les maîtres de Rome, les grandes familles aristocratiques. L'Aventin, c'est très très chic aussi. Puis après, plus on s'éloigne, plus les quartiers sont populaires d'une certaine manière. Les chrétiens sont dans le Trastevere, de l'autre côté du Tibre. Et puis, alors, avant l'incendie de Rome en 64, Rome est une ville extrêmement anarchique, avec des petites rues tortueuses, des bâtiments qui s'élèvent assez haut. D'ailleurs, ils sont si proches les uns des autres qu'on peut quasiment serrer la main de son voisin de l'autre côté de la rue.
Quand vous dites des bâtiments, Virginie Giraud, c'est des immeubles, des appartements déjà à l'époque.
Exactement, c'est pour ça que je parle du Paris du 19e, qui est, enfin, avant Haussmann, hein, ouais, qui est tout à fait comparable, parce que les Romains ont besoin de faire de la spéculation immobilière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans la ville, donc il faut construire, vite, mal, on pourrait appeler ça des marchands de sommeil aujourd'hui. Mmh. Et donc on a des immeubles de 5 étages en moyenne, mais on sait monter jusqu'à 7 étages.
C'est extraordinaire. Et des immeubles, et pas que des immeubles, j'imagine, il y a aussi des maisons, des résidences dans Rome?
Oui, tout à fait. Donc ces immeubles qu'on appelle les insulae, qui sont l'équivalent des pâtés de maison aujourd'hui, sont habités par des classes plus modestes, bien que souvent au premier étage, il y a des appartements plus grands qui sont habités par des gens qui ont un peu plus de moyens. Et puis sur les belles collines, du côté de l'Aventin, du Palatin, il y a ce qu'on appelle les domus, donc les grandes maisons qui ressemblent un peu à ce qu'on a à Pompéi, donc avec plusieurs pièces, des jardins intérieurs, un atrium où il fait bon vivre.
C'est quoi l'atrium déjà? C'est la petite terrasse intérieure, c'est ça?
Voilà, c'est une sorte de pièce avec un ciel ouvert qui permet à l'eau de pluie de tomber dans un petit bassin sous lequel il y a un réservoir, ce qui donne un réservoir d'eau pour la maison.
Avant 64, justement, l'incendie de Rome, Virginie Giraud, c'est quoi l'ambiance dans les rues? Déjà, il y a les odeurs, est-ce qu'il y a un tout à l'égout? Ça se passe comment? C'est propre?
Alors je ne dirais pas que c'est propre, comme je vous dis, les rues sont très 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 étroites, ça ressemble au Paris d'Anne Hidalgo, on peut dire ça.
Je vous laisse dire ça.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas circuler, il y a des gens...
Ça doit être pire à mon avis, non?
Je sais pas. Il y a des gens absolument partout dans la rue et on autorise les charrettes qui charrient de la marchandise à ne passer que la nuit.
Parce vous êtes vache, Anne Hidalgo, elle permet pas ça, le passage des charrettes, hein, franchement, je peux pas vous laisser dire ça.
Je vous laisse vos opinions aussi, Denis. En tous les cas, c'est vrai que ça circule en voiture la nuit pour pas gêner les passants, parce que dans la journée, il y a tellement de passants qui circulent dans les petites ruelles qu'on met un temps fou à traverser la ville. Et puis, on se donne rendez-vous à des heures, comme on n'a pas vraiment d'heures, on a les cadrans solaires et des repères. On se dit, bah écoute, on se donne rendez-vous demain matin sur le forum, oui, quand le forum est à un tiers rempli. Donc, ça correspond peu ou prou à 9h du matin, vous voyez.
C'est extraordinaire. Ah, c'était des repères temporels, ça. Oui. Dans la romantique Virginie Giraud, on a parlé de ces appartements. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau dans ces appartements, des toilettes, est-ce qu'il y a un minimum de confort?
Alors c'est assez confortable pour l'époque, mais ça reste conforme à ce Paris du 19e avant Haussmann. C'est-à-dire que vous avez de l'eau courante éventuellement quand vous êtes au rez-de-chaussée parce que vous avez une sortie de fontaine qui est proche de vous et en gros vous avez tiré la canalisation. Dans les étages, en revanche, il faudra monter des seaux d'eau. Et puis pour ce qui est des besoins, c'est comme à Paris au 19e avec des pots de chambre en général quand on n'a pas une grande maison avec ses toilettes personnelles.
Des pots de chambre qu'on vide comment en fait? Pas sur la tête des passants, non?
Alors, on évite, on fait un petit peu attention, mais effectivement, les rues permettent de rejoindre un tout à l'égout qui s'appelle la Cloaca Maxima à l'époque, donc le grand égout. Mais ce grand égout ne dessert pas l'intégralité de Rome et puis déborde en fonction de certaines périodes de l'année, s'il y a des crues du Tibre. Donc, on fait au mieux, c'est pas si mal quand même pour une ville qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais on a mieux fait un petit peu après, surtout une fois que Néron a rebâti Rome avec des rues beaucoup plus larges.
C'est la question que j'allais vous poser, vous me faites envie avec cette Rome après l'incendie. Tout est revu ?
Tout est revu. Néron se la joue Baron Haussmann. Il va totalement rationaliser la ville de Rome. Il va quasiment tirer des rues à angle droit, ce qu'on appelle le plan hippodamique, donc avec des rues comme à New York, en angle droit. Les rues vont être beaucoup plus larges. Il va donner des subventions aux gens pour qu'ils bâtissent leurs immeubles en pierre au moins jusqu'au premier étage, parce que ça prend moins feu que des habitations en bois. Et il va faire bâtir des coursives au premier étage des immeubles pour que les pompiers puissent courir plus rapidement vers les étages et éteindre les départs de feu. Donc c'est très rationnel.
Mais on oublie un peu ce côté quand même très efficace et novateur de Néron. On a plutôt une image de sale type, nous, aujourd'hui.
C'est un sale type, mais un génie.
Ah, d'accord, c'est pas incompatible. Virginie Giraud, vous publiez La véritable histoire des 12 Césars aux éditions Perrin. Et dans un instant, on va découvrir avec vous le luxe ultime des Romains. Vous allez me dire, ça brille, c'est de l'or. Rien à voir, c'est de l'eau qui coulait à flot.
France Bleu, Minute Papillon.
Mais comment vivaient les Romains dans l'Antiquité? On a un petit aperçu quand même avec Astérix.
L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents, sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continue de rire au bec de l'aigle impérial. Ainsi, ces barbares refusent Rome. Soit, c'est donc Rome qui ira à eux. Le venin du serpent le voilà. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître.
Ce sont des héros un peu snob dans nos Astérix. Chéri, les Romains, un extrait du Domaine des Dieux réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. On regarde par le petit trou de la serrure de l'histoire avec Virginie Giraud, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de la sexualité et des femmes. Et on s'immerge avec vous dans la vie quotidienne à Rome. On est entre 753 avant notre ère et 476 après notre ère. Et donc, on décrivait ces ruelles et cette vie dans cette Rome déjà, alors avant l'incendie, avant 64, où vraiment ça vivait fort, les immeubles bougeaient, pouvaient flamber aussi, c'était tout en bois, on vivait déjà dans des appartements, et puis sur les collines, il y avait les domus, ces maisons très élégantes. Est-ce que d'ailleurs, comment on sait à quoi ressemblaient tous ces habitats? Quelles traces on a aujourd'hui? Peut-être des domus, oui, mais des immeubles de ces fameux appartements, il en est resté quelque chose?
Alors déjà, des villes comme Pompéi ou Herculanum nous donnent une vision extrêmement précise de ce à quoi peut ressembler un quartier cossu, avec plein de maisons, avec des grandes pièces, avec des grandes extensions, des jardins internes.
C'est parce que ces villes ont été figées dans le temps en raison de la lave et l'éruption du Vésuve, c'est ça?
Exactement, ouais. En octobre 79, quant à ces fameux immeubles de rapport, les Insulae, eh bien ce sont les auteurs de l'Antiquité qui nous en parlent le mieux. Et quand vous lisez Juvénal ou Martial, qui sont des auteurs satiristes du 1er siècle, fin 1er siècle, début 2e siècle
vos
de notre ère...
Vos livres de chevet, à vous Virginie Giraud, on s'imagine chez vous, voilà.
Exactement, en plus.
C'est voilà, vrai. Sur la table de nuit. Oui.
Eh bien, il nous parle du quotidien dans ces immeubles. Et Juvénal, il dit, mais j'en peux plus du bruit des voisins, des odeurs de nourriture qui remontent. C'est impossible de dormir à Rome. Et c'est une ville qui est bouillonnante de vie, où il se passe toujours quelque chose. C'est un petit peu, c'est plus proche de nos HLM, vous voyez, en termes de construction. Donc, avec toutes les nuisances inhérentes à beaucoup de gens tassés dans un même endroit. Et c'est pour ça, je trouve que les Romains nous ressemblent énormément.
Et les domus, on peut en visiter, vous savez, encore aujourd'hui à Rome, il reste des ruines de ces demeures.
Alors sur le Palatin, il reste quasiment un morceau de la Rome antique du 2e, 3e siècle. Quand on y va, on peut voir encore un morceau du palais impérial, donc pas celui qui existait avant la Domus Aurea, qui existe toujours d'ailleurs en partie. Et on peut voir, quand on se circule sur la colline, des rues exactement comme elles étaient sous l'Empire, avec des maisons sur les côtés. Donc ce sont des ruines, mais on comprend à peu près l'architecture, les temples, et on voit que c'est une ville qui devait être pleine de vie. On arrive à ressentir réellement l'atmosphère de ces lieux.
Et alors, je disais tout à l'heure, ça c'est fascinant, Virginie Giraud, c'est que l'eau, c'était vraiment le trésor des Romains. Pourquoi c'est une denrée si riche et si précieuse pour eux ?
Ah, les Romains adorent l'eau. Ce sont des gens extrêmement propres et ils passent beaucoup de temps aux thermes. Les thermes, ça fait partie des sociabilités de la journée, mais aussi de l'importance de l'hygiène. Donc, on y va en général en début d'après-midi. On y passe entre 30 minutes et 2 heures. Plus, c'est de l'excès. Et vous savez, les Romains détestent
l'excès.
Sans poser
de RTT, quoi. Vraiment, c'était dans le cadre de la journée de travail. C'était les riches, plutôt ou...
Non, tout le monde y va.
Oui.
Parce que entrer au terme, ça coûte en général un quadran, soit un semi. C'est comme si on payait ça 10 centimes aujourd'hui, vous voyez. Donc, tout le monde peut y rentrer. Ce sont des endroits de brassage social. Et justement, ils sont faits pour ça. On va se rencontrer, on va discuter.
Donc... Tout en baignant, tout en... trempant dans l'eau, c'est ça, en quelque sorte ?
Exactement, ouais. Il y a des espaces qui ressemblent à des saunas et à des hammams. Alors, ils ne sont pas mixtes, parce qu'en général, les établissements mixtes qui seront tous fermés au IIe siècle sont des endroits un petit peu licencieux, si vous voyez ce que je veux dire.
Pas du tout, je vois pas, non.
Ah oui, je vous expliquerai en retard.
Ok, bon bah, j'imagine, il doit y avoir du sexe là-dedans, sans doute.
Mais imaginez, si on pense au terme de Caracalla, un bâtiment qui est grand comme trois cathédrales, donc quelque chose d'absolument gigantesque, extrêmement beau parce qu'il y a des œuvres d'art, il y a des bibliothèques, il y a des salons, il y a des espaces de conférences, ce sont vraiment des lieux de vie. Et puis il y a des grandes piscines, on peut se baigner, mais alors attention, elles sont pas très profondes, elles font en général 1 mètre, 1,20 m, parce que les Romains nagent très mal.
Ça, j'ai pas de bras, c'est pas de longueur là. D'accord.
Voilà, et donc il y a 10 à 15 aqueducs qui vont alimenter Rome en fonction des époques de l'Empire, ce qui fait qu'on a un débit d'à peu près 500 litres d'eau par jour et par habitant. C'est 4
énorme.
Fois plus qu'un Français aujourd'hui.
Ça veut dire que... Bah, ces termes de Caracalla, on peut les visiter ? Il y a des ruines aujourd'hui encore ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on ne va pas y construire de McDo, c'est une bonne nouvelle, parce que c'était
merci.
Une polémique qu'il y avait il y a quelques temps à Rome, il y a quelques semaines, où l'enseigne aux deux arches dorées voulait absolument construire son fast-food au milieu des ruines, et les Romains ont dit non, bravo les Romains.
C'est pas une bonne idée, faut quand même, il y a quand même 2-3 limites. Le fast-food, d'ailleurs, j'avais lu ça qu'à Pompéi, je me demande si c'est pas vous qui m'avez raconté ça, je mélange tout, qu'à Pompéi, on a retrouvé dans les ruines l'ancêtre du fast-food, une sorte
exactement.
De... Voilà, bon bah c'était vous. C'est bien ça, j'avais retenu. Il y a beaucoup de fontaines aussi à Rome, parce qu'on aime se baigner dans l'eau, mais on aime admirer l'eau qui jaillit.
Oui, tout à fait, l'eau est partout, puisque les aqueducs permettent d'avoir de l'eau constamment dans la ville. Donc il y a plus de 1000 fontaines dans la ville de Rome, c'est à peu près une à chaque coin de rue pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et l'eau coule en continu, c'est-à-dire que l'eau n'est pas un problème. À l'époque, il n'y a pas de facture d'eau, hein. Ça coule depuis l'aqueduc qui est relié à une rivière ou à une source plusieurs dizaines de kilomètres plus haut, et la gravité emmène l'eau jusqu'à la ville. Donc l'eau est toujours de bonne qualité, le calcaire a recouvert les canalisations, donc pas de problème de saturnisme, contrairement à ce qu'on croit. Et donc on boit une eau qui n'est pas vraiment de mauvaise qualité. Et c'est pareil dans les thermes, l'eau circule en permanence, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème d'hygiène, parce que bon, évidemment il n'y a pas de chlore, donc pour éviter que ce soit un bain de bactéries, il faut que l'eau se renouvelle en permanence. Donc les Romains sont des gens pragmatiques et de bons ingénieurs, donc on va avoir une eau de bonne qualité.
Ça veut dire que nous, à la même époque, en France, on n'a pas ce niveau de développement aussi ?
Oh ben non, pas du tout.
Ouais.
Nous, avant que les Romains arrivent pour nous apprendre ce qu'est la civilisation, on est des peuples de Gaulois. Je vais encore me faire détester par mes amis spécialistes de la Gaule, avant qu'elle soit romaine. Mais oui, les Gaulois vivent dans des huttes, ils sont moins bien organisés socialement, ils n'ont pas de termes, bien évidemment, ils n'ont pas de forum, ils n'ont pas de route pavée, enfin
oh,
bref.
Oh, les flouques, franchement. Bon, bah, en fait, c'est comme ça, c'est l'évolution et c'est l'intérêt de se mélanger, hein, de mélanger les peuples. L'eau que l'on trouvait aussi dans les toilettes, dans les latrines.
Oui.
Ça, c'était, on n'avait pas de toilettes, évidemment, à domicile dans la Rome antique.
À part le pot de chambre, non. Par contre, il y a des toilettes publiques, effectivement, que l'on va trouver un peu partout, autour du forum, dans les établissements publics comme les restaurants ou les maisons closes aussi. Sauf que ça ressemble pas du tout à ce qu'on imagine.
Ah oui?
Et non, les toilettes sont des lieux de conversation.
Remarque, c'est un peu ça avec mes enfants parfois. Hein. Tu sais, quand vous avez des enfants, ils ne vous laissent pas tranquille.
C'est vrai, toutes les mamans le savent.
Voilà. Donc souvent, vous parlez de plein de choses pendant que vous êtes aux toilettes. Donc, je vois un peu à quoi ça ressemble.
La vie des mamans ressemble effectivement à la vie des Romains, puisqu'on a en général des pièces où il y a des toilettes publiques. Ouais. Ça peut être 10, 20 espaces. Donc en fait, on a un banc avec des trous, voilà. On s'assoit tranquillement en faisant la conversation à son voisin. Et les déchets corporels tombent dans une petite rigole sous ce banc et sont emportés par un courant d'eau qui est quasiment permanent. Et puis, on a des éponges pour s'essuyer, des éponges, bien sûr, que l'on partage avec ses condisciples.
Bien sûr.
Donc, en termes d'hygiène, c'est pas formidable. Et là où ça devient marrant, c'est que vous connaissez sans doute le fameux proverbe « l'argent n'a pas d'odeur ».
Bien sûr.
Vous savez d'où il nous vient ? Eh bien, c'est à cause de l'empereur Vespasien qui a régné à la fin du 1er siècle de notre ère. Il fallait qu'il renfloue les caisses de l'État. Or, il fallait créer des taxes, hein, rien de nouveau sous le soleil. Et puis, il se dit, puisque les foulons, les teinturiers de l'époque, récupèrent de l'urine, parce que l'urine contient de l'urée qui est un décapant naturel, récupèrent l'urine dans les latrines pour nettoyer les draps qu'ils travaillent dans leur foulonnerie, eh ben, on va leur faire payer une taxe sur cette urine qu'ils récoltent gratuitement dans les latrines publiques. Et là, son fils Titus lui dit, mais quand même, papa, tu exagères. Et là, Vespasien fait amener un coffre du trésor public, l'ouvre, prend une pleine poignée de pièces, la met sous les nez de son fils et lui fait, alors, est-ce que l'argent a une odeur?
C'est épatant. J'adore cette histoire. La vie quotidienne à Rome, c'est aussi l'amour. Mais quels en étaient les codes? Le récit tout de suite avec Virginie Giraud sur France Bleu.
France Bleu, Minute Papillon.
Vous découvrez la vie quotidienne à Rome entre le 8e siècle avant notre ère et le 5e siècle après notre ère, parce que c'était un peuple star de l'Antiquité. On en discute avec Virginie Giraud, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de la sexualité et des femmes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, on dit souvent nos ancêtres les Gaulois, mais est-ce qu'on peut dire nos ancêtres les Romains aussi?
Oui, il vaut même mieux dire nos ancêtres les Gallo-Romains, et c'est ce qu'on fait depuis le 19e siècle en France, parce que Napoléon III, qui était féru d'archéologie, avait bien compris que pour créer le récit national, il fallait démontrer que nous étions à la fois Gaulois et à la fois Romains.
Ils nous ont légué beaucoup de choses, ces Romains, et évidemment, ça c'est l'une de vos spécialités, donc je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, comment on se séduisait à Rome? Est-ce qu'il y avait un code?
Oui, il y avait même le maître de la séduction, un poète qui s'appelait Ovide et qui a laissé derrière lui un livre qui s'appelle « L'art d'aimer » qui se décompose en 3 chapitres. Alors 2 pour les hommes, parce qu'il dit en gros les hommes, vous avez plus besoin de conseils parce que vous n'êtes pas très intuitif.
Ah déjà, il savait.
Il savait. Et 1 chapitre pour les femmes parce qu'elles savent quasiment tout naturellement. Et donc, à Rome, c'est très codifié, la séduction. Ce sont les hommes qui draguent et les femmes qui se laissent draguer ou pas. Donc, il faut aller chasser la femelle d'une certaine manière. Donc, on peut le faire sur le forum, on peut le faire dans les établissements.
Le forum, c'est la place publique, on va dire.
Exactement. Ou aux établissements de spectacle. Et d'ailleurs, il donne cette petite blague qui passerait très très mal aujourd'hui. Il dit donc, une fois que vous avez un petit peu ferré la jeune femme que vous voulez séduire, vous l'emmenez au spectacle. Vous vous asseyez à côté d'elle. Les courses de chars, c'est l'idéal parce qu'il y a plein de poussière qui monte de la piste. Et puis, vous faites semblant d'essuyer de la poussière sur la poitrine de votre belle. Et en fait, c'est un test parce que si elle se laisse faire, c'est qu'elle est disposée à se laisser draguer. Si elle crie au scandale, si elle fait « Me too, tu m'as tricoté au cirque », eh bien, je pense que c'est pas la peine de continuer.
C'est incroyable ça. Mm-hmm. Donc ça c'est des conseils, mais que suivait qui quand vous me dites Ovide, c'était les lettrés, ceux qui pouvaient lire, ou ça s'est infusé dans toute la population romaine?
Globalement, à Rome, on sait lire. Faut pas oublier que la majorité des enfants nés libres ont accès à l'équivalent de notre école primaire. Donc il y a déjà des best-sellers à l'époque. Et Ovide est c'est le BHL de l'époque d'une certaine manière. Enfin, il est très connu.
On lit beaucoup à l'école, ça, BHL? Non.
Non. Non, ils lisent l'Iliade et l'Odyssée à l'école.
Mais je vois le genre de personnage que vous décrivez.
Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir accès à cette littérature qui est un petit peu licencieuse, parce que c'est la fin de la République, le début de l'Empire, donc c'est quand même une période où on est assez joyeux. Et donc forcément, les hommes cherchent à séduire. Les femmes aussi ont envie de séduire, mais elles sont obligées de tomber dans cette fiction où elles doivent faire semblant de ne pas avoir envie. Et on est un petit peu encore aujourd'hui les héritiers de ça. Et ça, c'est dommage. Et ça, il faut le changer, bien sûr.
Quel était le statut des femmes, justement, à l'époque de la Rome antique?
Alors, elles ont de l'influence. Ce sont des femmes de l'ombre, les Romaines. Elles peuvent avoir beaucoup d'influence sur leurs maris, sur leurs fils, sur leurs amants. Mais pour être émancipées juridiquement, à partir du début de l'Empire, elles doivent payer un tribut. Et ce tribut est en enfant, puisqu'il faut avoir mis au monde 3 petits citoyens, 3 enfants, pour avoir le droit d'être émancipées juridiquement.
Non, c'est vrai ?
Et oui.
Ah ouais, et avoir droit à quoi ?
Eh ben, ça veut dire qu'elles n'avaient plus de tuteur et qu'elles ne dépendaient plus ni de leur mari ni de leur père. Ça veut dire la capacité à faire du business toute seule, à gérer son propre argent, à une vraie indépendance, mais au prix de 3 enfants.
Ah oui, et de 3 mâles, c'est ça ?
Non,
ça
peut être des filles aussi.
Donc c'est vraiment complètement arbitraire. Ça repose juste sur la possibilité d'enfanter.
Ça fait
d'enfanter 3 fois.
Du devoir de la citoyenne.
Comment s'habillaient les femmes à l'époque ? Est-ce qu'elles pouvaient un peu s'habiller comme elles voulaient ou...
Alors, quand elles sont prostituées, oui. Sinon, non. On demande à la matrone, c'est-à-dire l'épouse romaine, de s'habiller avec des tenues couvrantes. Donc, on a des grandes robes qui tombent jusqu'au sol. Les plus pudiques d'entre elles vont même coudre un volant à l'arrière de la robe pour qu'on ne voit jamais leurs pieds. Et elles sont tenues de rabattre un morceau de leur manteau sur leur chevelure quand elles sortent. Alors, sous l'Empire, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais il y a eu une époque quand même où on demandait aux femmes de cacher leurs cheveux, de se voiler, parce que vous comprenez, c'est elles qui attisent le désir des hommes, elles sont belles, donc voilà.
Ah, déjà on disait ça.
Et oui, donc vous voyez à quel point il y a certaines choses qui n'évoluent pas beaucoup, et donc les juristes considèrent que si une femme qui n'est pas habillée correctement se faisait violer, c'était de sa faute, alors que si elle était habillée de manière très couverte et qu'elle se cachait en partie les cheveux, là, c'était pas de sa faute.
À méditer. Merci beaucoup, Virginie Giraud. Et puis, on vous lit, et notamment la véritable histoire des 12 Césars. C'est aux éditions Perrin. À bientôt.
À bientôt.
Minute Papillon, c'est fini. Vous pouvez encore nous savourer sur FranceBleu.fr ou sur l'appli Radio France. Demain à 14h, vous allez découvrir plein d'histoires de chocolat. Il y en a de bien gratinés. Et les 800 ans de Notre-Dame de Paris. Elle est beaucoup plus jeune, hein, Frédéric Le Ternier. Oh non, je l'ai faite.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour à Fred. Tous. De quoi vous parlez aujourd'hui ?
On parle d'écologie et d'idées reçues. Vous savez, vous avez certainement déjà entendu « Ah mais avec ton vélo électrique, tu pollues plus qu'en voiture. » Bah, c'est pas vrai. Donc on va déconstruire tout ça avec notre invité Valère Correa, qui a sorti un super livre aux éditions Marabout.
Vous savez, parce qu'on ne sait plus quoi faire.
Oui, on ne sait plus à quel sens vous jouer, je vous rejoins
Merci
un petit peu.
Merci d'être notre phare qui marche à l'électrique, bien sûr.